Actuellement, je suis professeur de théologie systématique, de doctrine, à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, après avoir été pasteur une dizaine d'années à Versailles et ensuite à Grenoble.
D'accord. Vaux-sur-Seine, pas grand monde connaît ici. J'aimerais savoir également, mais quels sont vos hobbies dans la vie Qu'est-ce qui, à part la Bible évidemment, vous motive dans la vie
J'avais pas préparé la question. Bon, mais j'aime bien le sport, le football en particulier. Le footing aussi, je fais régulièrement un footing pour me tenir en forme. Je ne suis pas très encouragé parce que j'ai vu que je ne pouvais pas faire le marathon de Paris dans les temps corrects. J'ai vu les résultats et quand j'ai comparé avec mes performances, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore le niveau. Mais bon, je fais du footing.
J'ai bien de terminer. Et quoi pour terminer, enfin, avant la suite, je veux dire, comment est-ce que vous connaissez le GBU qui vous a forcé à venir ici?
On m'a gentiment invité. J'étais très honoré de recevoir l'invitation de Marion. Alors, le GBU, je connais depuis un certain temps quand même, parce que je suis originaire, ça je ne l'ai pas dit, de la Guadeloupe. Et quand j'étais étudiant, je fais des études de mathématiques là-bas, il n'y avait pas de GBU en Guadeloupe. Et je fais partie des membres fondateurs du GBU de Guadeloupe, avec trois autres compagnons qui ont fondé le GBU de Guadeloupe. Et donc, j'ai régulièrement collaboré, quand j'étais pasteur à Versailles surtout, avec le GBU, mais ça date de quelques années, c'est ça. Et donc, je suis assez content de retrouver le GBU ce soir.
Merci. Alors, je vous propose de vous écouter maintenant.
Merci.
Allez, on va dire.
Alors, le thème qu'on m'a demandé de parler, j'espère que c'est bien ce thème-là. Donc, on m'a dit que vous avez commencé une série d'études sur le thème de la prière. C'est ça? Et le thème que je suis censé développer ce soir, c'est le Saint-Esprit et la prière. Saint-Esprit et la prière. Alors, j'ai pas reçu de consigne très précise, sinon le titre, et aussi que je dois parler une demi-heure. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. Donc, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste vous dire d'abord, si vous voulez approfondir le sujet après cet exposé, je vous recommande un livre de Samuel Benetro. Samuel Benetro qui a été professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, que j'ai lu aussi comme professeur, et qui a écrit un très beau petit livre, « La prière par l'esprit », qui traite exactement le sujet que nous allons abordé ce soir, donc je m'y référerai. Et bien sûr, pour parler d'un thème comme celui-là, le Saint-Esprit et la prière, il faut lire d'autres livres sur la prière en règle générale et aussi sur l'Esprit-Saint. Et donc, je vais aussi vous signaler ce livre qui est sur la table, là, qui a pour titre « Pour une fois réfléchi », et vous avez un chapitre sur le Saint-Esprit que votre serviteur a rédigé, et cela vous permettra d'avoir un cadre global de réflexion sur le Saint-Esprit. Donc, pour notre exposé, je vous propose d'aborder trois points. Deux points que je vais traiter assez rapidement, et le troisième, je m'attarderai plus longuement en dessous. Trois points. Le Saint-Esprit, objet de la prière. Deuxième point, le Saint-Esprit, sujet de la prière. Et troisième point, le Saint-Esprit, agent de la prière. objet de la prière, sujet de la prière, agent de la prière. D'abord, donc, le Saint-Esprit, objet de la prière, où peut-on demander le Saint-Esprit ? Peut-on prier pour avoir l'Esprit ? L'Esprit peut-il être l'objet spécifique de la prière ? On réclame dans nos prières que Dieu nous donne son Esprit. Pour aborder cette question, je vous lis un texte de l'Évangile selon Luc. Au chapitre 11, c'est Jésus qui parle et qui fait d'ailleurs un enseignement sur la prière et qu'il et veut encourager à la persévérance dans la prière. Et vous connaissez cette fameuse parole de Jésus, hein, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il dit « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson ?» Et verset 12, ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Et Jésus, qui montre qu'il ne s'était pas beaucoup d'illusions sur nous, dit « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Vous donnez de bonnes choses à vos enfants, alors quand vous êtes mauvais, à combien plus forte raison, donc Jésus fait un raisonnement ici a fortiori, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, le Saint-Esprit est bien objet de la prière. Certes, le Saint-Esprit nous est donné à la conversion. Devenir chrétien, c'est recevoir l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans plusieurs textes, l'Épître aux Galates au chapitre 2, il dit « Comment avez-vous reçu l'Esprit au début de votre conversion ?» Eh bien, par l'écoute de la foi, Galates 3, 2. Et en Romains 8, texte sur lequel nous reviendrons plus longuement, l'apôtre Paul nous rappelle que le Saint-Esprit nous est donné. Hein, Dieu nous donne l'Esprit, et donc devenir chrétien, c'est recevoir l'Esprit Saint. Et on peut dire que lorsque l'on décrit le devenir chrétien, le fait de devenir chrétien du point de vue de l'homme, on parle de conversion. L'homme se détourne de ses péchés pour se tourner vers Dieu. Il fait demi-tour, donc il se convertit. Donc quand on parle de ces choses-là du point de vue de l'homme, quand on braque le projecteur sur l'homme, pour parler de l'accession à la foi, pour parler de l'entrée dans la vie chrétienne, on parle de conversion. Mais si on décrit le même événement du point de vue non pas de l'homme, mais du point de vue de Dieu, alors on dit que Dieu régénère, que Dieu fait naître de nouveau, il change nos cœurs, il nous régénère, il transforme nos cœurs de chair, nos cœurs de pierre en cœurs de chair, donc c'est ça la régénération, et Dieu nous donne l'Esprit. Oui. Donc si on braque le projecteur du côté de l'homme, on parle de conversion plutôt, on se convertit. Et si on décrit la même chose du point de vue de Dieu, eh bien, il nous donne l'Esprit. Donc nous recevons l'Esprit Saint lors de notre conversion, au moment de la conversion. Une fois que l'on a dit cela, il faut quand même ajouter que la conversion n'est pas la seule et unique expérience de l'Esprit que l'on peut faire dans sa vie. Il y a des expériences nouvelles de l'Esprit Saint, avec l'Esprit que l'on fait tout au long de sa vie de croyant. On ne fait pas qu'une seule expérience avec l'Esprit, on fait une, deux, trois, quatre, dix, vingt, 200, 300, 1 million d'expériences nouvelles avec l'Esprit Saint. Et dans l'Écriture, on se rend compte qu'il y a des expériences de renouvellement du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous commettons des fautes, lorsque nous nous éloignons du Seigneur, l'Esprit Saint qui est en nous est attristé, nous pouvons attrister l'Esprit. Mais quand nous nous repentons, quand nous demandons le pardon du Seigneur qui nous accorde à cause, bien sûr, du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, il y a comme une sorte de renouvellement de l'Esprit en nous. Hein, comme un renouvellement, l'Esprit nous fait encore goûter, de nouveau goûter à sa communion, à sa présence de vie en nous. Donc il y a des expériences de renouvellement de l'esprit qui sont nécessaires à cause de nos péchés ou à cause d'une vie de médiocrité spirituelle, hein, une vie de médiocrité spirituelle, mais que l'on redémarre en quelque sorte dans sa vie spirituelle, eh bien on vit encore une expérience de renouvellement du Saint-Esprit. Et il y a aussi dans l'Écriture le thème de la plénitude du Saint-Esprit. Et vous voyez, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez qu'à plusieurs reprises, il est question de plénitude du Saint-Esprit, des croyants, Pierre et d'autres croyants qui avaient reçu l'Esprit-Saint au jour de la Pentecôte, qui étaient baptisés du Saint-Esprit, eh bien, ils ont fait une nouvelle expérience de l'Esprit que Luc décrit avec la formule « plénitude du Saint-Esprit ». Et on peut dire qu'il y a deux types de plénitude du Saint-Esprit. D'abord, et bon là j'ai pas le temps de vous le démontrer, mais pour plus de détails vous pouvez voir hein, dans le livre, je vous donne les références, on voit bien que Luc utilise deux mots, deux verbes différents pour parler de la plénitude du Saint-Esprit. Et il y a deux mots grecs, pimpleni, pleroho, et soit Luc veut parler d'un événement soudain. On dit que quelqu'un a été rempli du Saint-Esprit. C'est un événement soudain, ponctuel, instantané, qui est une forme de revêtement de la puissance divine en vue d'un témoignage audacieux à rendre à Jésus-Christ. Hein, donc les apôtres qui sont prisonniers, par exemple, eh bien, ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit pour parler, pour témoigner de Jésus-Christ devant des hommes alors qu'ils ont à affronter l'hostilité. Et on peut rattacher à ce thème, donc de cette plénitude soudaine, instantanée de l'Esprit, le texte de Matthieu 10:20, où Jésus dit que lorsque l'on vous, il y a ces apôtres, lorsqu'on l'on vous traînera devant les tribunaux, n'ayez pas peur, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit qui parlera en vous. Donc vous voyez, les apôtres ont vécu cette expérience de plénitude soudaine du Saint-Esprit. Et il y a une autre forme de plénitude du Saint-Esprit qui est plutôt la plénitude permanente de l'Esprit, la plénitude continue du Saint-Esprit. Et c'est comme lorsque l'apôtre Paul nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Et donc, cette plénitude du Saint-Esprit, c'est la saturation du témoignage chrétien par l'Esprit. Vous voyez ? Et donc, nous avons besoin de faire ce genre de prière hein, pour recevoir l'Esprit Saint. Et remarquez que dans le texte de Luc 11, Jésus dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» On voit que la demande de l'Esprit dont il est question, c'est plus... la demande de l'Esprit quotidien, en quelque sorte. C'est comme le pain quotidien. Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Et donc, pour vivre une vie chrétienne réelle, une vie chrétienne authentique, nous avons besoin de l'Esprit. Et donc, on peut demander au Seigneur, oui, soit parce que nous avons un témoignage difficile à porter, parce que nous avons une conférence à donner, ou bien parce qu'on doit témoigner à quelqu'un, parce qu'on peut prier, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, que ton Esprit me remplisse pour que je parle de ta part, que je témoigne avec audace, avec confiance, donne-moi intelligence, donne-moi sagesse, donne-moi audace pour témoigner. Donc on peut faire cette prière de l'Esprit, et on peut aussi prier pour que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire que notre esprit, notre vie chrétienne soit en quelque sorte saturée par l'Esprit pour que nous puissions porter les fruits de l'Esprit. C'est parce qu'on a l'Esprit Saint en nous qu'on peut porter ces fruits de l'Esprit. Donc, l'Esprit est objet de la prière. C'est lui qui nous donne de vivre une vie chrétienne authentique. C'est lui qui nous donne du fruit qui glorifie le Seigneur, d'où l'idée qu'il est aussi objet de la prière. Deuxième point, le Saint-Esprit sujet de la prière. C'est-à-dire, peut-on prier le Saint-Esprit ? A-t-on le droit de prier l'Esprit comme on prie le Père, comme on prie Jésus ? Le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons en un seul Dieu qui existe en tant que Père, Fils et Esprit Saint. L'Esprit étant totalement Dieu, pleinement Dieu, on peut donc le prier et l'adorer. Prier le Saint-Esprit ou l'adorer, ce n'est pas tomber, ce n'est pas sombrer dans l'idolâtrie, puisque l'Esprit est Dieu. Et nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc l'Esprit Saint peut légitimement être le sujet de la prière. On peut prier l'Esprit. Cependant, une fois qu'on a dit cela, il faut aussi être sensible à l'usage biblique. Il faut lire la Bible. Et quand on lit la Bible, on voit des choses, on voit des phénomènes, on voit ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans la Bible. Et on constate que dans l'Écriture, il n'y a pas de prière adressée directement à l'Esprit Saint. Vous ne trouverez aucun texte biblique où on prie l'Esprit. Il n'y a qu'un seul texte biblique que l'on pourrait évoquer, mais ce n'est pas directement une prière adressée à l'Esprit, c'est plutôt une invocation. C'est le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ézéchiel 37, 9, il est écrit « Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revienne. Hein? » Donc le prophète s'adresse à l'Esprit, mais de la part du Seigneur, en disant « Esprit, souffle sur ses morts et qu'il revienne. » Donc, mis à part ce texte-là, c'est intéressant de constater qu'il n'y a pas d'autre texte, il n'y a pas, et ce n'est même pas un texte, c'est une prière directe adressée à l'Esprit, vous n'avez pas de texte dans l'Écriture où il est question de prier l'Esprit Saint. C'est quand même à constater, à noter, et après on va interpréter théologiquement ce phénomène biblique. Et donc, pour interpréter ce phénomène biblique, parce que donc des prières adressées au Père, bien sûr, c'est le Père que l'on prie, il y a des prières adressées à Jésus-Christ aussi, dans l'Écriture, on peut trouver des textes, hein, Étienne qui remet son esprit entre les mains du Seigneur, et les questions, Paul parle des chrétiens comme ceux qui invoquent le nom du Seigneur, et invoquer le nom du Seigneur, c'est une formule technique pour parler de la prière, donc c'est du prix, le Christ. Donc, vous avez des prières attestées, plusieurs textes bibliques où la prière adressée au Fils est bien réelle, mais pas de texte où les questions de prier l'Esprit Saint. Et donc c'est important de comprendre que dans l'économie du salut, dans le plan du salut, l'Esprit Saint a pour but non pas de braquer le projecteur sur lui. L'Esprit Saint, son rôle et non pas d'attirer l'attention sur lui, mais d'attirer l'attention sur le Christ, sur Jésus. Et c'est ce que Jésus nous dit explicitement. Je vous lis le texte de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Donc Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Jésus nous parle du paraclet, de l'avocat, du défenseur qui doit venir, donc l'Esprit Saint. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et que dit Jésus? Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il, verset 14, il me glorifiera, car il recevra ce qui est à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Donc Jésus définit clairement quel va être le rôle de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut. Et le rôle de l'Esprit Saint, c'est d'attirer les regards vers Jésus, de pointer les regards vers Jésus, de permettre aux croyants de mieux comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a faite, de mieux s'approprier de l'Évangile. Et c'est pourquoi vous avez un autre texte, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit « Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint ». Autrement dit, la fonction du Saint-Esprit, c'est de nous faire confesser effectivement que Jésus-Christ est le Seigneur, hein, de nous permettre d'accéder à la foi en Jésus-Christ. Donc cela signifie que dans l'économie du salut, dans le plan du salut, il y a une sorte de kénose, d'épouillement, d'humilité du Saint-Esprit qui ne braque pas le projecteur sur lui, mais qui braque le projecteur plutôt sur Jésus. Il nous fait découvrir le Fils, il glorifie le Fils, et le Fils lui-même glorifie le Père. Il y a un ordre dans la vie trinitaire. Donc nous, chrétiens, nous disons bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu existe en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit sont égaux. Il n'y a pas d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Néanmoins, il y a un ordre, Père, Fils, Saint-Esprit. En vocabulaire trinitaire technique, on utilise un certain nombre de formules que je vous épargne pour montrer les relations et l'ordre trinitaire, mais il y a bien un ordre trinitaire. Et c'est très intéressant de voir ce que Paul dit lui-même en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, 28. Il est question que Dieu, tout à la fin, soumettra toute chose à Jésus-Christ, y compris la mort. Hein, vous connaissez ce texte. Hein, Dieu soumet toute chose au pied du Christ. Et verset 28. « Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. » C'est-à-dire que dans l'éternité, le Fils remet le royaume au Père, se soumet au Père, pour que l'ordre trinitaire, qui est en quelque sorte éclipsé aujourd'hui, brille de nouveau dans toute sa splendeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos regards se portent surtout vers le Fils, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, hein, le salut qu'il nous a apporté, qui est venu à Jésus-Christ. Donc c'est vrai que le projecteur dans l'histoire du salut est braqué sur le Fils. Mais dans l'éternité, nous rappelle Paul, eh bien, le Fils remet le royaume au Père pour que l'ordre trinitaire de nouveau brille. Ouais. Et donc, il y a un ordre trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Prier le Saint-Esprit, ce n'est donc pas une hérésie, nous avons le droit de le faire, mais il faut quand même s'interroger. Pourquoi le fait-on trop systématiquement parfois, hein, pas chez nous, mais certains milieux parfois. On prie que le Saint-Esprit et on le fait systématiquement. Pourquoi le fait-on quand ce n'est pas un usage biblique? Il faut toujours se demander pourquoi on ne suit pas les usages bibliques. Et n'est-ce pas, quand on le fait, n'est-ce pas pour avoir une sorte d'autonomie de l'Esprit par rapport au Fils et par rapport à son œuvre. C'est-à-dire que si vous oubliez cela, hein, que l'Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ, il y a plusieurs textes de l'Écriture qui le disent, hein, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, hein, c'est le Père, l'Esprit du Père et du Fils, donc c'est l'Esprit de Jésus-Christ, donc ça veut dire que l'Esprit ne peut pas être indépendant de Jésus-Christ, il ne peut pas être indépendant de l'œuvre du Christ, et l'œuvre actuelle du Saint-Esprit, c'est précisément de faire comprendre le sens de l'œuvre du Christ. C'est précisément de nous aider à nous approprier encore mieux de la vérité du Fils. Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand on commence à vouloir prier l'Esprit, ce n'est pas faux techniquement, ce n'est pas une hérésie, mais c'est psychologiquement déjà parfois une volonté d'émanciper en quelque sorte le Christ, l'Esprit du Verbe, du Christ, du Fils. Et quand on délie le lien du Fils et de l'Esprit, eh bien, ça veut dire qu'on délie aussi le lien entre l'Esprit et la parole. Et la parole. Et toutes les hérésies qui ont marqué l'histoire de l'Église et qu'on appelle l'illuminisme, hein, l'illuminisme, les illuminés, ce sont des personnes qui parfois pensent avoir des révélations du Saint-Esprit, mais au-delà de l'attestation scripturaire, au-delà des Écritures, hein, qui pensent que oui, l'Esprit communique directement avec nous, et qui entraîne l'Église dans des hérésies. Alors que si vous maintenez que le Christ, le Fils, est soumis au Fils et l'Esprit du Fils, eh bien vous allez faire très attention et vous direz que toute révélation de l'Esprit doit être en accord fondamental avec les Écritures, avec le Fils, qui est le Verbe, qui est la parole. Vous voyez ? Donc, dans l'Écriture, on prie le Père. La prière est appropriée normalement au Père. On a parlé du Fils, on a parlé de l'Esprit. Un jour, vous parlez du Père. Quel est le rôle du Père dans votre vie ? Quelle est votre relation au Père ? Dans la Trinité, nous avons un Dieu trinitaire. Donc, on parle beaucoup du Fils. On parle beaucoup du Fils, d'autres beaucoup de l'Esprit et le Père dans tout cela. Quel est le rôle du Père, la place du Père dans votre piété personnelle ? Donc, on prie normalement le Père. Et on prie le Père au nom du Fils, au nom de Jésus. Et quand on prie au nom de Jésus, vous savez, prier au nom de Jésus, ce n'est pas la formule rituelle que l'on prononce à la fin de notre prière pour que les gens se préparent à dire Amen. Non, prier au nom de Jésus signifie qu'on se réclame de Jésus. C'est-à-dire que quand on prie le Père, on lui dit « Je te prie, je te demande des choses, non pas en vertu de mes mérites personnels. » Tu sais que je ne peux pas, je n'ai aucun mérite, je n'ai aucun droit à te demander quoi que ce soit. Mais, je prie au nom de Jésus, ça signifie que je me réclame de Jésus. Je me réclame des mérites de Jésus. La formule est tout à fait juste, Jésus nous dit de prier en son nom. Mais c'est ce que ça veut dire, c'est plus que la formule, vous voyez, c'est plus que la formule. C'est de réclamer du Fils, c'est avoir conscience que lorsque l'on prie, on le fait en se réclamant du Fils, et non pas de nos propres mérites. Donc, on prie le Père au nom du Fils et par l'Esprit. Et c'est là la transition toute trouvée. Pour vous parler du troisième point, le Saint-Esprit comme agent de la prière. On trouve dans l'Écriture beaucoup d'allusions, beaucoup de textes qui mettent l'Esprit Saint en rapport avec la prière. Et vous trouvez notamment la formule « prier par l'Esprit ». Et il y a quatre textes que je vais étudier, je vais survoler les trois premiers et m'attarder sur le quatrième, où il est question de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit signifie prier sous l'inspiration de l'Esprit, prier sous la conduite de l'Esprit, prier en étant guidé par l'Esprit. Et par cette formule, prier par l'Esprit, l'accent est mis sur le fait que les prières sont inspirées par l'Esprit. C'est l'Esprit qui suscite la prière, qui suscite l'élan de la prière. C'est lui qui conduit notre prière, qui porte notre prière, qui guide notre prière. Et donc, je voudrais signaler donc les textes où il est question de prier par l'Esprit, et vous verrez que ces textes, bon, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, ils sont controversés. Vous voyez qu'on peut les comprendre de différentes manières, ces textes. Et cela enrichit le monde évangélique, mais ça fait qu'il faut discuter. Il faut discuter. Donc, on va discuter ces textes. Le premier, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, 15. Alors, 1 Corinthiens 14, vous connaissez, c'est le fameux chapitre de l'apôtre Paul où il parle des charismes, des dons spirituels, et il parle notamment du charisme des langues, du don des langues. Et que dit Paul en 1 Corinthiens 14, 15? Il dit: que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Traduit, je prierai inspiré par l'Esprit, mais littéralement, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par mon intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai aussi de façon intelligible. Vous voyez la formule qui apparaît, prier par l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie, prier par l'Esprit? Il faut se rappeler que le but de Paul, ici, en 1 Corinthiens 14, c'est de montrer la supériorité de la prophétie qui est une parole intelligible, c'est-à-dire une parole compréhensible, une parole claire, par rapport à une parole en langue qui n'est pas directement accessible à l'auditoire, sinon par interprétation. Paul, pour le chapitre 14, ne veut pas interdire le parler en langue, mais il veut l'encadrer de manière assez rigoureuse, et les recommandations que fait Paul, on ne le remarque pas assez, sont plutôt restrictives, en tout cas dans le culte communautaire. Puisque que dit-il au verset 27? Il dit, parle-t-on en langue, que deux le fassent, trois au plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il parle à Dieu, qu'il parle à lui-même et à Dieu. Hein? Donc c'est ça le but de Paul, encadrer le don des langues. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que, vous savez, là, il y a discussion parmi les chrétiens évangéliques sur ce qu'est la prière par l'Esprit. Et c'est vrai que les chrétiens qui sont plutôt d'orientation pentecôtiste, charismatique, considèrent que prier par l'Esprit, c'est prier en langue. C'est faire des prières, c'est le parler en langue dont il serait question ici. Alors, je n'entre pas dans le débat sur ce qu'est le parler en langue. Je me suis exprimé longuement dans le chapitre consacré à la question. Donc, vous savez, on écrit pour ne pas toujours répéter les mêmes choses. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais j'ai aussi quand même une clé pour vous aider dans votre réflexion. C'est quoi les langues? Ben, on discute, est-ce que c'est de la xénoglossie ou est-ce que c'est de la glossolalie? C'est pas la même chose. La xénoglossie et la glossolalie. Alors, je parle en langue. La xénoglossie, comme son nom l'indique, glossie, glossa, langue, et xéno signifie étranger, comme xénophobe, quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, qui a une phobie des étrangers. Donc, la xénoglossie, c'est la capacité surnaturelle de parler une langue humaine, un dialecte humain, sans l'avoir apprise au préalable, ce qui est proprement miraculeux. C'est ça la xénoglossie. Et la glossolalie, en revanche, c'est le fait de prononcer des sons, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine pour les plus doués, généralement une quarantaine de sons, les uns à la suite des autres, dans un ordre qui change, et avec une vitesse... avec une certaine vitesse, mais qui n'est pas une langue. Ce sont des sons que l'on prononce. Ce n'est pas des langues, ce n'est pas une langue, ce n'est pas un dialecte, mais c'est des sons que l'on prononce les uns à la suite des autres avec une certaine rapidité. D'accord? Et donc, il y a un débat. Qu'est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que l'écriture parle, quand il est question de parler en langue, est-ce qu'il s'agit de la xénoglossie ou est-ce qu'il s'agit de la glossolalie? Je vous laisse avec cette question. On va en reparler si vous voulez, mais je... Donc, il y a d'abord à prendre position sur cette question. Et deuxièmement, c'est vrai que l'apôtre Paul, ici, distingue une prière par l'esprit sans le concours de l'intelligence humaine. Est-ce que l'apôtre Paul, oui, effectivement, l'apôtre Paul dit « auquel cas l'orant, donc celui qui prie, s'exprime en une langue inconnue, et c'est une prière essentiellement de louange, une prière d'action de grâce. » C'est ce qu'il dit au verset 17. Hein, verset 17, il n'est pas question de prophétie, mais de louange. « Sans doute, ton action de grâce est remarquable, si tu parles en langue, mais l'autre n'est pas édifié, parce qu'il ne comprend pas. » Il ne comprend pas ce que tu dis, donc même si c'est extraordinaire, même si tes louanges que tu adresses à Dieu sont extraordinaires, l'autre ne comprend pas et donc n'est pas glorifié. L'intelligence de l'orant, la personne qui prie en langue, n'est pas mise en jeu, dans la mesure où la personne parle une langue qu'il n'a pas apprise, c'est proprement miraculeux, son intelligence ne fonctionne pas. Donc, mais l'apôtre Paul dit oui, ça existe, mais il y a la prière aussi, il y a la prière par l'intelligence qui n'est pas dévaluée, et donc le rôle de l'esprit n'est pas nié dans la prière intelligible, mais extérieurement, l'action de l'esprit s'impose avec moins d'évidence. Donc, quand quelqu'un prie en parlant une langue qu'il n'a pas apprise, c'est plus évident de voir l'action de l'Esprit-Saint, dans ce cas-là, que lorsque la personne prie dans une langue qu'il a apprise et qu'il maîtrise. Mais cela ne signifie pas que l'Esprit n'est pas à l'œuvre à ce moment-là. Et vous avez donc ce premier texte, 1 Corinthiens 14-15. Deuxième texte, vous pouvez en discuter si vous voulez, Éphésiens 6-18. Éphésiens 6, verset 18. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion par l'Esprit. Priez en toute occasion par l'Esprit. Là, je pense qu'on peut dire que dans ce texte-là, il n'est pas question d'une prière en langue, puisque l'apôtre Paul dit « Priez en toute occasion ». Paul précise qu'il faut s'y adonner en tout temps et sous toutes ses formes. Et Paul précise plus tard, au verset 19, il dit donc « Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit, à cet effet soyez vigilants et continuellement fidèles, priez pour l'ensemble du peuple de Dieu, priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime. Oui. » Donc, on peut dire que Paul précise qu'il s'agit de l'intercession. Prier par l'Esprit, c'est intercéder de manière infatigable. Et donc, c'est la prière authentique chrétienne dans la variété de ses formes, dans la variété de ses expressions. En 1 Corinthiens 14-15, la prière par l'Esprit, c'était plutôt les prières de louange que Laurent faisait dans une langue inconnue, mais ici, c'est la prière plus générale, la prière authentique chrétienne, dans la variété de ses expressions. Et donc, pour Paul, toute prière chrétienne authentique est une prière par l'Esprit, c'est-à-dire assistée par l'Esprit, portée par l'Esprit, dirigée par l'Esprit, soutenue par l'Esprit. Autre texte où vous trouvez la formule « prier par l'Esprit », c'est l'épître de Jude, Jude, verset 20. Jude dit, « Mais vous, mes amis, construisez-vous, édifiez-vous sur la base de votre foi très sainte, priez par l'Esprit. » Là, c'est une recommandation, vous voyez, générale aussi, priez par l'Esprit. Vous remarquez le caractère général de l'exhortation, et cette exhortation de Jude à prier par l'Esprit, prend place dans une série de recommandations. Et c'est donc l'ensemble de l'existence chrétienne qui est visée, puisqu'il est question de foi, d'espérance, d'amour. Et donc, Jude fait un appel général à la prière, en disant « Priez par l'Esprit », donc appel global à la prière, avec une ouverture à l'action de l'Esprit dans la prière. Donc, être disponible, disponible à la prière, disponible à l'Esprit-Saint, qui inspirera la prière, qui suscitera la prière et qui portera la prière. Mais le texte, je ne sais pas si j'ai dépassé mon... Le texte le plus important et peut-être le plus controversé sur le rôle de l'Esprit dans la prière, c'est bien sûr Romains, chapitre 8, sur lequel je vais m'attarder ou peut-être aller un peu plus vite, compte tenu du temps. Romains 8, verset 26 à 27. Paul dit, « De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède, littéralement sur-intercède pour nous, en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. » Paul commence ce texte par un diagnostic, au verset 26, il constate notre infirmité, notre faiblesse au niveau de la prière. Nous ne savons pas prier. Il y a quelques personnes qui s'illusionnent. Nous ne savons pas prier. Il faut commencer par le reconnaître. Nous ne savons pas prier. Non seulement nous ne savons pas que demander comme il faut, mais laisser à nous-mêmes, laisser à nos intuitions, à nos émotions, à nos sentiments, à nos raisonnements, nous tâtonnons dans la prière. Nous ne savons pas prier. C'est pourquoi nous avons aussi besoin du secours dans la prière. Donc, parfois, on aurait pu s'illusionner. Moi, je vais prier. Et après, l'Esprit va intervenir parce qu'il a affaire. Non, on les met aussi dans la prière. On a besoin du Saint-Esprit. On ne sait pas prier. On ne sait pas prier comme il faut. Donc, ce constat est d'une part humiliant. On ne sait pas prier. Même la prière, on ne sait pas faire. Mais c'est aussi un réconfort. C'est réconfortant parce que l'Esprit nous aide et parce qu'on sait que l'exaucement n'est pas directement lié à la qualité de nos prières, au quantum d'énergie spirituelle qu'on a dépensé dans la prière. Non, nous dit Paul, l'Esprit aussi vient à notre secours, y compris dans nos prières. Alors, le texte n'est pas si simple et il nous pose un certain nombre de questions. D'abord, comment concevoir cette intercession de l'Esprit, puisque Paul nous dit que l'Esprit prie, il surintercède. Est-ce que nous sommes associés à cette intercession de l'Esprit? Est-ce que ça veut dire que l'Esprit fait un tri dans nos prières pour les rendre efficaces? Est-ce que c'est l'Esprit qui prie de manière silencieuse en nous? Est-ce que l'Esprit prie à travers nous, à travers nos prières? Nous avons vu que les autres textes sur la prière nous ont permis de conclure que l'Esprit nous assiste dans la prière en suscitant en nous l'élan de la prière, parce que parfois on n'a pas envie de prier, mais on prie et l'Esprit suscite cet élan. L'Esprit dirige la visée de nos prières, il inspire nos requêtes, il affermit notre foi, il nous donne l'audace de demander à Dieu. Mais Paul ici va un peu plus loin, donc dans les autres textes c'est ce qu'on peut apprendre sur le rôle de l'Esprit dans la prière, mais ici Paul va plus loin puisqu'il nous dit que l'Esprit ne se contente pas de nous faire prier, mais l'Esprit lui-même prie. L'Esprit intercède avec nous. Alors comment interpréter ce texte? Là encore, on retrouve les mêmes difficultés que je vous ai signalées. Vous avez deux grandes options. D'abord, ceux qui voient une allusion au parler en langue, à la glossolalie, donc dans ce texte, et ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas de glossolalie, que l'Esprit qui surintercède pour nous, ce n'est pas de la glossolalie, mais c'est l'idée que l'Esprit enveloppe notre prière, qu'il englobe notre prière, il assume nos prières, il corrige parfois les écarts. Parfois on raconte un peu n'importe quoi, on dérape, parfois l'Esprit corrige la prière, l'écart pour amener cette prière devant le Seigneur, il remédie à nos faiblesses. Et Paul va plus loin et dit que l'Esprit intercède par des soupirs, des gémissements à la létoï. Donc le mot grec ici dérive de l'haleine, qui signifie parler, avec un alpha privatif. Alla letois signifie donc non dit. L'Esprit prie par des gémissements non dits, inexprimés. Alors, certaines personnes pensent qu'il s'agirait du parler en langue, que lorsque l'on prie, l'Esprit prie en nous en nous faisant parler en langue. Mais on peut constater que le texte dit que ce sont des gémissements inexprimés, non dits. Que signifie un gémissement inexprimé quand on dit que c'est les langues? Parce que celui qui parle en langue, c'est lui qui parle. Il parle une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais c'est lui qui parle. Tandis que là, l'apôtre Paul dit qu'il s'agit de soupirs inexprimés qui ne sont pas dites. Donc on ne peut pas, me semble-t-il, à partir de ce texte, dire que ce texte se réfère au nom des langues, à la langue. Ce n'est pas la langue, le parler en langue dont il est question ici. Paul parle plutôt de soupirs inexprimés. Ce sont donc des gémissements que pousse l'esprit et qui sont inaudibles et probablement inaccessibles à l'intelligence humaine. L'Esprit Saint soupire lui aussi avec nous, parce que l'Esprit Saint voit les souffrances. Et si vous lisez le chapitre 8 de l'Épître, vous verrez qu'il est question de la création qui soupire, de nous qui soupirons devant la souffrance. Et l'Esprit soupire avec nous. Et vous avez à la fin du livre de l'Apocalypse, cette prière de l'Esprit Saint, hein, et qui dit, l'Esprit qui s'associe à nous. Regardez Apocalypse, je vais vous faire remarquer ce texte. Je ne l'ai pas noté, mais Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» C'est-à-dire que l'Esprit s'associe à l'Église pour prier que le Christ vienne. Dans cette situation de souffrance, de douleur, l'Esprit lui aussi soupire et dit « Viens, Seigneur, viens !» L'Esprit soupire avec les chrétiens. Donc l'Esprit intercède dans les saints. La nature des demandes que l'Esprit fait n'est pas indiquée, mais, nous dit Paul, il demande selon ce qu'il convient. Verset 27. Il intercède selon Dieu parce qu'il demande selon ce qui convient. Et donc, l'aide qui est apportée ici par l'Esprit ne vise pas à améliorer la qualité de nos demandes, ni même à conduire au discernement de ce qui est juste de demander. Mais l'Esprit lui-même s'engage avec nous dans une activité d'intercession. Il intercède, il surintercède en faveur des saints. Et donc cela nous montre encore donc la dimension trinitaire de la prière. Vous avez des textes qui nous disent que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Romains 8, verset 26, regardez ce que Paul dit, Romains 8, 26. Non, c'est pas 8, verset 26, où il est question du fils qui prie, c'est où ?
36.
Non, c'est pas ça, c'est avant. Et il est dit que l'Esprit, que Jésus prie pour nous. Pardon ? Verset ? 34 ? 34. Alors, 34, qu'est-ce que ça dit ? Voilà, merci beaucoup. Qui condamnera les élus de Dieu ? Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Donc, le rôle du Fils, une des activités du Christ aujourd'hui, c'est d'intercéder pour nous. Et comment Jésus intercède pour nous ? Il intercède pour nous en tant qu'il est notre avocat. C'est-à-dire que lorsque le Satan... Le mot Satan signifie accusateur. Lorsque le Satan, et d'ailleurs Satan c'est un nom commun dans l'écriture, et vous avez un verbe en hébreu, le verbe sataner existe, qui signifie accusé. D'accord ? Donc lorsque le Satan vient nous sataner, vient nous accuser auprès du Père, il se sert de la loi de Dieu pour nous accuser, il a transgressé la loi, et bien que fait notre avocat Jésus-Christ ? Il vient, il dit, j'ai payé pour lui. Il s'est réfugié sous mes ailes. Il a mis sa forme en sacrifice. Ses péchés sont pardonnés. Et l'accusation du Satan se dégonfle comme une bouche. C'est comme ça que Jésus intercède pour nous, en tant qu'il est notre avocat. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Fils prie pour nous, mais l'Esprit Saint prie en nous. L'Esprit Saint prie en nous. Donc vous voyez, le monde qui prie pour nous, le Fils prie pour nous, l'Esprit prie en nous, Dieu qui prie Dieu pour nous, Dieu qui prie Dieu en nous. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit prie en nous, il surintercède pour nous, il nous est donné, non pas comme une possession, mais il nous est intériorisé Et il est Dieu en nous qui prie Dieu pour nous. Et c'est là notre plus belle assurance dans la prière. Et voilà ce qui devrait nous encourager à prier. Parfois, on ne trouve pas les mots parce qu'on est trop fatigué. Mais l'Esprit s'est pris pour nous, il prie en nous, il prend le relais. Parfois, même, on a l'assurance que si on dérape, l'Esprit Saint corrige. Si nous soupirons, l'Esprit Saint soupire avec nous auprès du Père. Il nous est donné pour être à notre côté, à nos côtés, pour prier le Père avec nous et pour nous. Voilà, donc vous voyez, une belle assurance que ce texte nous donne pour prier avec persévérance et avoir une belle vie de prière. Parce que je vais m'arrêter là.
Merci. Peut-être passer un petit moment de questions, si on a encore le temps.
Pour les questions ultra polémiques, parce que je sais qu'il y a moyen qu'il y en ait, peut-être vous avez un livre là qui est bien, et peut-être pas juste le moment de se lancer dans un grand débat sur le parler en langue. Voilà. Sauf qu'il y a quelqu'un que ça a troublé outre mesure, il a le droit de le dire, mais c'est peut-être pas le moment de poser des questions très très polémiques.
Si c'est ma première question, c'est pas ce dossier.
Voilà, du coup.
Bon, bah, d'accord, tiens. Alors, il y en a une ?
Moi, il y a un truc qui m'a vraiment troublé, justement, dans la remarque que vous avez faite, sur 1 Corinthiens 14, sur les versets que vous avez cités, 13 et 14.
Oui.
Et dans le verset 14.
14 et 15, hein, que j'ai cité.
14 et 15. Mm-hmm. Mais il y a le 13 aussi, justement, qui d'un côté relate un peu pas mal, une place un peu en contexte, justement. Mm-hmm. Et dans le verset 14, il dit, en effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Et mon intelligence.
Le produit est stérile, demeure stérile.
Mmh. Et après, il dit je prierai par l'esprit, mmh. Je prierai aussi par l'intelligence. Mmh. Mmh. Et enfin, il y a quand même le mot intelligence, mmh. Enfin, qui est cité. Mmh. Le fait qu'il dit bien que je prie par l'esprit, mmh. Mais je prie aussi par l'intelligence. Oui, le fait qu'il y a bien deux pôles. Oui. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, quand il prie, Paul, mmh. Il y a bien. Enfin, quand il parle d'esprit, il y a bien un moment où il ne comprend pas ce qu'il dit.
Oui. Et c'est ce que j'ai dit. Ah. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, il faudrait se mettre d'accord. On n'entre pas dans la discussion. Hein. J'ai essayé de faire la discussion dans le livre. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue ? Parce que tout le monde imagine savoir ce qu'est le parler en langue. Il faut prendre le temps de savoir, est-ce que c'est de la xénoglossie ou est-ce que c'est de la glossolalie ? D'accord ? Il faut se mettre d'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Alors, quelle que soit l'hypothèse, hein, que l'on prend. Si c'est de la xénoglossie, c'est la capacité surnaturelle qui est donnée à quelqu'un de parler une langue inconnue, une langue qu'il n'a jamais apprise. Imaginez un Chinois qui se met à parler du créole haïtien ou européen, alors qu'il n'a jamais appris, ça c'est de la xénoglossie. D'accord ? Donc s'il fait ça, son intelligence ne fonctionne pas, puisque c'est un don. Effectivement, c'est un charisme qui lui est donné sur le champ de parler une langue inconnue. Donc, son intelligence n'entre pas en jeu. Vous voyez ? C'est pourquoi il dit que son intelligence demeure stérile. Ouais. C'est pas l'intelligence qui lui fait parler une langue qu'il n'a pas apprise. Vous comprenez ? Et il dit, mais donc je vais faire ce genre de prière aussi, certainement. Mais je vais prier aussi avec mon intelligence, c'est-à-dire en formulant des mots que je comprends. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut que Dieu soit pingre et qu'il fait des économies dans le salut. C'est le plan du salut tel qu'il se déroule. C'est-à-dire, quand je dis dans l'économie du salut, le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Et ce plan du salut suit plusieurs étapes. D'accord ? Et Dieu met en œuvre ce plan du salut. Donc, les différentes étapes, c'est par exemple l'appel d'Abraham, c'est la libération de l'esclavage d'Égypte, c'est le don de la loi au Sinaï, c'est la venue de Jésus-Christ, sa mort pour nos péchés, sa résurrection, son exaltation, c'est la Pentecôte, etc. etc. Hein? Donc, c'est le plan du salut tel qu'il se déroule. On dirait économie, ça permet d'aller de faire des économies de parole.
Est-ce qu'il y a une autre question qui vous brûle les lèvres ?
J'allais demander quels sont, entre guillemets, les signes que, quand je dis signe, c'est d'une manière très large, que le Saint-Esprit prend le relais. Par exemple, je peux prendre l'initiative de faire une prière. Enfin, parce qu'il y a des choses que je crois, moi, personnellement, penser comme étant une action de Saint-Esprit, mais je peux aussi me tromper. Quelle est la certitude que c'est bien le Saint-Esprit qui prend le relais à certains moments où, comme on fait de la prière?
Mais c'est justement, l'apôtre Paul dit que c'est inexprimé, donc on n'entend pas, on ne sait pas. Mais c'est un acte de foi qu'il nous demande de poser. Il nous dit que lorsque nous prions, hein, lorsque nous prions, l'Esprit surintercède avec nous. Donc, je n'ai pas de signe à vous dire. Je le crois parce que Paul le dit. Ouais. Et donc, je sais que même si mes prières ne sont pas brillantes, et l'Esprit Saint prend le relais. Hein, l'Esprit Saint prie avec moi, il prie, il surintercède pour moi. Donc, je n'ai pas de signe à vous communiquer.
Mais quand même, parfois, on sent qu'on est
porté.
Corrigé. Enfin, oui, porté, corrigé. Enfin, il y a quand même, au bout d'un moment, on sent qu'il y a.
Oui, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'on sent ou ces émotions que l'on sent? Nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes émotifs et les émotions, ce n'est pas négatif. Hein. Mais il ne faut pas tout de suite identifier ces émotions avec l'Esprit Saint. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que les émotions soient négatives, hein, j'ai rien contre les émotions. Hein. Mais parfois, on s'excite beaucoup et. Non, je ne dis pas ça pour vous, mais. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Ça m'arrive aussi. Donc, quand on est excité, on dit ben, je suis super excité, c'est l'Esprit Saint. L'excitation n'est pas forcément signe d'esprit, je veux dire. Mais si on est qui on est, je veux dire, hein, on prie en fonction de qui on est, en fonction de sa culture, de son éducation, de sa personnalité, etc. Tout ça, c'est normal. Quand on se présente à Dieu, dans nos prières aussi, qu'on se présente avec sa personnalité. D'accord ? Donc moi, je dis oui, les émotions mises en œuvre, oui, mais il ne faut pas forcément identifier les émotions avec l'œuvre de l'esprit. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, je ne veux pas dire que c'est un jugement négatif que je porte contre les émotions. C'est neutre. Ça peut être bon comme ça peut être négatif aussi. Comme l'intelligence d'ailleurs. Qui est bonne et mauvaise en même temps.
Pourquoi l'intelligence est bonne et mauvaise en même temps?
L'intelligence, on peut glorifier Dieu avec son intelligence. Et il y a d'autres personnes qui utilisent leur intelligence plutôt pour ne pas glorifier Dieu. Tout dépend de l'usage que l'on fait. Et de même que l'on peut faire un usage de son intelligence qui glorifie Dieu, on peut faire un usage de son intelligence qui ne glorifie pas Dieu. Et ça, c'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour tout ce qui est humain. Tout ce qui est humain peut être mis au service de Dieu, glorifier Dieu, et tout ce qui est humain peut être mis au service du soi, de soi, de sa propre gloire, etc.
Dans le cadre de la prière, si on utilise l'intelligence, bah, par exemple, d'un côté égoïste, pour prier pour soi, pour des raisons égoïstes, c'est mauvais.
Ben, est-ce qu'il faut prier pour soi? Oui, bien sûr, il faut prier pour soi. Hein. On a le droit de prier pour soi. Hein. Et on a non seulement le droit de prier pour soi, mais de demander. On demande des choses au Seigneur. C'est vrai que si nos prières tournent uniquement autour de nous, on peut s'interroger. Parce qu'il y a beaucoup de textes qui nous appellent aussi à intercéder. Et il y a beaucoup de textes qui nous appellent à rendre grâce aussi à Dieu. Mais une fois qu'on a dit cela, il y a la place aussi pour les prières, les requêtes personnelles.
Vas-y. Je vais poser une question, si vous pouvez répondre de manière assez brève, comme elle est assez longue. Satan est l'accusateur. Quelle place fait-on à Satan sur la terre par rapport au fait que tout le mal, à chaque fois qu'on il est l'incarnation du mal, quelle place on peut lui faire par rapport à la terre et le fait qu'il soit accusateur, selon vous, par rapport à ce que vous ressentez
vous-même? Vous pouvez répéter la question?
Quelle place vous faites à Satan, pardon, sur la terre par rapport à ce que vous représentez de Satan? Donc, parce que Satan est accusateur, il a un rôle par rapport au Père d'accuser.
Oui.
Jésus-Christ est l'avocat, il a le rôle de dire j'ai péché, j'ai fait sur la
croix,
j'ai payé pour ses fautes,
donc
je peux tout lui pardonner, il est sous mes ailes, sous ma protection. Quel rôle on peut donner à Satan par rapport à la terre?
Oui, d'accord, j'ai compris votre question. Alors, je vais être très bref. J'ai écrit un chapitre aussi dans ce livre sur le monde invisible, sur Satan. Je donne plusieurs pages hein, sur le rôle de Satan. Je dirais, pour faire bref, il est le séducteur, il séduit les hommes, il les égare, il les détourne de Dieu. Et il envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
Si vous avez d'autres questions, donc, vous avez un livre qui existe. Je ne sais pas si Alanisius sera encore disponible par la suite pour répondre aux questions de manière plus personnelle. Mais voilà, en tout cas, vous avez
l'outil.
Normalement d'ici 40 minutes, c'est vrai. 30 minutes.
T'es plus ou moins optimiste.
Mais sinon, j'ai l'adresse mail.
Je ne réponds pas au mail. Elle le sait.
Demandez à Lily.
J'y vais bien.